Vous êtes sur RTL.
C'est à suivre cette semaine.
Ce sera donc à suivre cette semaine. Ce sera à suivre mardi prochain, la journée nationale des aidants. Cette année, les mesures adoptées à l'Assemblée il y a plusieurs mois viennent d'entrer en vigueur. On en parle avec Anaïs Bouissou du service économique d'RTL. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
Alors ces aidants, qui sont-ils aujourd'hui en France ?
C'est tout le monde Vincent, c'est vous, c'est moi, c'est une femme qui va s'occuper de son mari malade, ce sont des enfants, voire des petits-enfants, qui prennent soin d'un proche âgé. C'est une personne dans la famille en situation de handicap dont on va s'occuper. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être aussi trois fois par jour pour l'aider à manger. Vous voyez, ça concerne potentiellement énormément de monde. En gros, on estime qu'il y a 11 millions d'aidants en France. Il y a peu d'études sur la question, mais c'est un chiffre qui est estimé. C'est du temps passé, de l'énergie et parfois même être aidant peut aussi avoir des conséquences sur une carrière.
11 millions d'aidants en France, évidemment c'est un problème de société. À quel dispositif ces personnes ont droit aujourd'hui ?
Parmi les possibilités, il existe un congé pour les aidants, ça c'est nouveau, l'application vient d'être publiée au Journal officiel. Si vous devez vous occuper d'un proche, vous pouvez demander un congé de quelques jours à 3 mois, congé qui pourra ensuite être renouvelé jusqu'à 1 an. Vous aurez droit à une allocation de 52 euros par jour si vous vivez seul, 43 euros par jour si vous vivez en couple. Tous les salariés du privé peuvent en bénéficier, les fonctionnaires aussi, les indépendants et même les demandeurs d'emploi. C'est évidemment une grosse avancée, mais sur un mois, la somme à laquelle vous avez droit est de 1150 euros maximum, tout cumulé. Ça signifie quand même pour certains d'avoir une perte de salaire. Et pour l'Association française des aidants, la loi pourrait encore aller plus loin.
Et à part ce congé de proches aidants, est-ce qu'il y a d'autres solutions, d'autres moyens de trouver un peu de réconfort?
Alors un petit peu partout, maillé sur le territoire, en France, vous avez des cafés des aidants qui vous permettent de rencontrer par exemple des travailleurs sociaux, des psychologues, d'autres aidants. Rien que ça, ça peut permettre de discuter davantage et d'essayer de comprendre une situation. Des cafés à l'heure actuelle, parfois en visioconférence avec la situation du Covid. Vous avez ce qu'on appelle des maisons de répit aussi, qui prennent le relais quand vous êtes à bout. Il n'y a pas de honte à cela, c'est possible. Sur Internet, vous pouvez vous renseigner sur le site www.aidant.fr, aidant avec un S. Et puis, il y a des professionnels de l'aide à domicile pour faire manger, pour faire la toilette d'un proche qui ne serait plus autonome. Encore faut-il donner davantage de moyens à ces professionnels de l'aide à domicile encore très dévalués, augmenter les salaires des aides à domicile, embaucher plus de personnel. Ça, ce sont des demandes qui sont fréquemment renouvelées par l'Union nationale de l'aide, des soins et des services à domicile.
Merci Anaïs Bouissou du service économie d'RTL, c'est très clair. Et bonsoir Serge Guérin.
Bonsoir Vincent.
Merci d'être avec nous, sociologue, évidemment spécialiste des questions liées au vieillissement. Aider les aidants, c'est ce que vous préconisez quand même depuis des années. Alors est-ce que là, vous dites bravo pour ce congé rémunéré.
Le soutien aux aidants, c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Finalement, sans les aidants, on parlait à 11 millions de personnes à peu près, sans les aidants, le système de santé s'écroule en France. Tout bêtement, ce sont les premiers des soignants d'une certaine manière. Ils ne devraient pas faire ça, c'est ça qu'ils font. Et donc, ce qu'a fait le gouvernement est un pas important. Il faut le féliciter, il faut le souligner. Ça ne suffit pas, mais au moins, on en gage quelque chose. Il y a un engrenage qui commence à s'engager sur la partie des aidants qui sont en activité professionnelle. Globalement, c'est 50-50. La moitié des aidants sont des gens qui travaillent en même temps. Alors, ces gens-là, souvent, ils veulent continuer de travailler. Parce que sinon, finalement, vous finissez par être que un aidant. Vous avez envie d'être souvent autre chose.
Et c'est ça qu'il faut arriver à faire, à permettre de pour un fils ou autre qui s'occupe de ses parents, de pouvoir à la fois aller travailler dans son entreprise et en même temps avoir un petit peu de temps pour aider ses parents.
Alors, c'est une des pistes. Alors, dans certains cas, la personne se dit, mais je suis obligé de quitter l'entreprise pour m'occuper d'un proche, mon compagnon, ma compagne, un parent, parfois un enfant aussi,
faut
pas oublier,
voilà,
tout ça. Donc, mais souvent, ces personnes-là se disent non, j'ai pas envie, je veux pas être que ça, ainsi de suite. Et puis financièrement, c'est compliqué, et puis ma vie, elle est autre et autre. Et donc, c'est comment aussi, au-delà de cette aide, donc là, elle est insuffisante, et ensuite, c'est comment les mutuelles, comment les assurances vont pouvoir s'impliquer, s'engager. Mais au-delà de tout ça, c'est comment l'entreprise peut-être, l'entreprise et la collectivité, c'est un peu les deux, peut aider aussi ces personnes. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, il y a les structures, je pense à une structure comme Responsage, où finalement, l'entreprise s'abonne, et ensuite, la personne, quand elle a un problème, elle appelle cette structure responsable, par exemple. Ça peut être, je sais pas, on peut mobiliser les médecines complémentaires alternatives.
Mais l'entreprise a un intérêt à ce que un aidant
Absolument.
Puisse aider.
Vous avez parfaitement raison. C'est, on peut se dire, l'entreprise, qu'elle le veuille ou non, c'est son problème. Aujourd'hui déjà, dans une entreprise sur cinq, il y a plus d'absentéisme pour s'occuper d'une maman qui est touchée par Alzheimer que pour le petit dernier qui a eu la rougeole. Une entreprise sur cinq. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'estime, c'est autour de 420 millions d'euros de perte de productivité. C'est-à-dire que les gens, quand ils se retrouvent dans cette situation-là, bah, il faut bien qu'ils assument. Et donc, ils le font entre autres pendant les heures de travail. Et puis, on est un peu moins piqué et tout ça. Mais en même temps, on a la trouille de le dire à son employeur. Parce qu'on se dit que ça va mettre un peu en fragilité. Peut-être que la promo, elle est foutue. Donc, il y a aussi ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'osent pas le dire. Donc, finalement, même si l'entreprise, on peut dire, c'est pas son rôle premier, n'empêche qu'aujourd'hui, elle est obligée de prendre en compte la situation
des personnes. Elle y a aussi un intérêt.
Elle y a un intérêt économique direct.
Ce que vous dites aussi, en général, on n'ose pas dire, demander ça à son patron. Mais globalement, d'ailleurs, en général, l'aidant n'ose pas demander de l'aide.
Absolument. D'abord, dans certains cas, il se dit, mais enfin, ce que je fais, c'est normal.
Ce que je fais, c'est normal. Je le fais pour mon fils, pour ma soeur.
C'est
pour
écouter. Voilà. C'est normal. D'ailleurs, au début, quand le mot a été porté, 2010, hein, la Journée nationale des aidants, c'est tout récent. Avant, les gens disent, mais je suis pas un aidant, je suis la maman, je suis le papa, je suis le fils, je suis la fille. C'est normal. Et pour d'autres personnes, c'était, ah, vous me faites du bien de mettre un mot. On a besoin de ça aussi. Et donc, c'est s'assumer comme aidant, d'une certaine manière, mais ne pas résumer sa vie à être aidant. Parce qu'au bout d'un moment, si vous ne faites que ça, vous finissez par vous oublier. Et dans certains cas, en effet, l'aidant, je devrais dire l'aidanteux, parce que dans plus de 60% des cas, c'est d'abord une femme, l'aidanteux finit par s'oublier et parfois même devenir plus malade que la personne qu'elle aide.
Tout cela montre quand même que le regard sur les personnes âgées dépendantes, sur les handicapés et autres, a changé.
Peut-être que même le Covid nous a aidés de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la fragilité, c'est pas que les autres. La fragilité, c'est vous et moi, maintenant et peut-être demain. Et puis, je dirais que c'est l'égoïsme solidaire. C'est-à-dire que aider les aidants, c'est s'aider un jour soi-même. Et puis, c'est aider des proches. Donc, il faut prendre en compte tout cela. Et dans les entreprises, ça peut se faire en partie. Il faut aussi que ce soit la collectivité. C'est aussi des questions d'assurance. Il y a plein de choses à faire. Mais ça peut être simplement, vous savez, quelques heures de sophrologie, un petit peu de méditation, des médecines complémentaires alternatives. Je crois qu'il y a une agence qui s'est lancée là-dessus, par exemple. Elle doit aussi s'impliquer auprès des entreprises. Mais c'est d'abord que les salariés, d'abord que les dirigeants soient sensibilisés.
Vous demandez toujours des états généraux de la dépendance ?
Je demande toujours des états généraux de la seniorisation et que ces questions-là soient impliquées, par exemple, dans toutes les réformes qui doivent être. On ne peut pas penser la seniorisation de la société, on ne peut pas penser l'avenir collectif de notre société sans prendre en compte les aidants et ceux qui travaillent à leur côté, c'est-à-dire les professionnels. Parce que pourquoi il y a autant d'aidants ? C'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de professionnels de l'aide. Il y a des gens qui sont payés pour ça, qui sont compétents pour ça.
Merci. En tout cas, je retiens ce que vous dites. Cette aide aux aidants, bravo. Mais on doit faire encore mieux. Merci Serge Guérin, sociologue et spécialiste de toutes ces questions liées au vieillissement. Merci beaucoup.
C'est à suivre cette semaine.
Oui, ce sera à suivre cette semaine et ce sera même à suivre sur RTL. Demain matin, notez bien cet événement à 9h dans Laissez-vous tenter. Claude Lelouch va annoncer qu'il tire sa révérence. Bonsoir Stéphane Boutsock.
Bonsoir Vincent.
Vous l'avez rencontré, Claude Lelouch, et c'est à vous donc qu'il a décidé de faire cette révélation.
Oui, vous savez, pour Claude Lelouch, les chiffres sont très importants. Ça fait 60 ans qu'il fait du cinéma, c'est son 50e film et donc, il le dit, ce sera le dernier. Le film porte un titre très lelouchien, L'amour c'est mieux que la vie, et ça sera en effet, pour lui, il le dit, sa manière de tirer sa révérence.
Avec un casting à la Lelouch.
Jean-Louis Trintignant, qu'on va revoir à l'écran. Il y aura Béatrice Dalle, il y aura Les Fidèles, il y aura Stéphane de Groot, il y aura Kev Adams, nouveau venu dans l'univers de Claude Lelouch, il y aura Marianne Denicourt, il y aura Harry Habitant, voilà. Tous les fidèles seront là pour cette dernière fête.
Et le sujet ? Alors, même si c'est pas toujours facile de parler du sujet, de faire le pitch d'un film de Claude Lelouch.
Et je vais même vous dire, au stade où on en est, je suis sûr que le film n'est pas terminé d'écrire. Sept histoires d'amour, le chiffre 7, répartis sur plusieurs années. Claude m'a dit qu'il avait tourné depuis 20 ans des images qu'il va intégrer dans le film. Il va remonter jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il y aura des scènes, il y aura beaucoup de musique. Il veut que ça soit aussi presque une comédie musicale par moment. Mais le sujet, c'est dans le titre, c'est l'amour.
Et il vous a expliqué pourquoi il tenait à raccrocher maintenant, peut-être ne pas faire le combat trop. Voilà, ouais. C'est ça.
Il a 83 ans, Claude Lelouch. Il a tout connu. Oscar, César, évidemment. Succès public. Bide, monstrueux. Voilà. Palme d'Or à Cannes. Il a inscrit son nom dans l'histoire du cinéma. Je crois qu'il se rend compte qu'il est temps aussi de laisser la place à des plus jeunes. Il forme des gamins, hein, les cinéastes de demain dans son école à Beaune. Je crois qu'il a envie de terminer sur un dernier feu d'artifice.
Et on va écouter un très court extrait de cette interview qu'on entendra demain matin sur RTL, où il explique qu'il veut partir finalement à l'image de son cinéma, ce cinéma qu'il a toujours fait, marqué par l'optimisme.
J'ai envie, avant de partir, de faire joujou. Et puis dire au revoir aux grincheux qui ont souvent fait la gueule, quoi.
Voilà, dire au revoir aux grincheux, à ceux qui parfois aussi ont critiqué ce cinéma, mais ce cinéma qui va rester le nom de Claude Lelouch, définitivement, il est inscrit en haut pour le cinéma français.
Depuis 1966, hein, ouais. Un homme et une femme, ça ne s'est pas arrêté. Alors il y a eu des films qui, faut être honnête, ont été moins bons que d'autres, des petites merveilles vraiment, je pense à 1+1 il n'y a pas si longtemps avec Dujardin de Zazie Berstein, mais là avec ce film, c'est ce qu'il dit. C'est qu'il veut remercier le public et ses fidèles notamment qui, quoi qu'il arrive, l'ont toujours suivi.
Parce que son cinéma, c'est un cinéma de spectateurs. C'est-à-dire que lui, il a toujours dit qu'il se mettait à la place du spectateur, même si on a pu lui faire un certain nombre de reproches.
C'est-à-dire qu'on s'est tous, je crois, à un moment ou un autre, retrouvés dans les films de Lelouch. Il a toujours réussi à aller chercher des moments, parfois volés, hein, il le revendique, il vole des choses à ses acteurs, mais qui nous rappellent nos vies, nos amours déçus, nos coups de cœur, nos déceptions, nos deuils. Voilà, il a filmé tout ça, il a filmé nos vies depuis 60 ans que Lelouch, et je crois que tout ça sera vraiment au cœur du dernier.
Du dernier qui, on le rappelle, se nomme
L'amour, c'est mieux que la vie, et qu'il devrait tourner jusqu'au mois de mai l'année prochaine.
L'amour, c'est mieux que la vie. Rendez-vous donc avec Claude Lelouch, interview exceptionnelle réalisée par Stéphane Boutsock demain matin dans Laissez-vous tenter. Merci Stéphane. Et dans un instant, ce sera Autoradio. On va parler des véhicules anciens dans la ville de demain. Ensuite, 19h, rappel de l'info, le MacPol, et on refera la planète avec Alain Bougrain-Dubourg.